Les archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Sur la planète Terre, il y a ceux qui provoquent des catastrophes, je ne citerai pas de nom, et ceux qui, avec leurs petits moyens mais une énergie inébranlable, sont des sauveteurs. L'homme que nous allons rencontrer ce matin est de ceux-là. Il s'appelle Jean Bulot. Pendant 20 ans, il a été le commandant d'un remorqueur chargé de venir en secours aux bateaux en difficulté. Le reportage de RFI date de janvier 2004. À une époque, le naufrage de pétroliers et les marées noires qu'il provoque hantent les mémoires. Jean Bulot est un marin depuis son plus jeune âge, mais il est aussi un écrivain et il a publié de nombreux récits de ses aventures. Aujourd'hui, âgé de 86 ans, il a pris sa retraite sur son île natale, l'île d'Ar, située au large de Vannes. Je vous propose de le retrouver il y a 24 ans, alors qu'il vient d'abandonner sa fonction de commandant de l'Abeille Flandre, célèbre remorqueur basé à Brest et sauveur de nombreux bateaux en perdition dans les eaux de la Manche. Retrouvons donc l'équipe de Fréquence Terre à la rencontre de Jean Bulot, ange gardien de la mer. On se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Fréquence Terre, je vous propose d'écouter des histoires de mer, de tempêtes et de bateaux en perdition. Avec un grand marin, Jean Bulot, un commandant de remorqueur qui, durant plus de 20 ans, a arraché à la mer des vies, des bateaux, en préservant bien souvent nos côtes de nombreuses pollutions. Un témoignage recueilli à l'occasion de la sortie de son livre, Colère Noire.
Avec le ventre d'orque des tempêtes. Avec le vent debout dans les bateaux. Avec le bateau ivre de la tête, avec le cœur et son rocher de mots. Raconte-moi la mer.
Il y a eu le sauvetage d'un patrouilleur nigérian en 84. Ils étaient 64 à bord. Ils étaient en train de couler en plein mois de février par 0 degré au large de la presqu'île du Contentin. Et ils avaient une voie d'eau. Le commandant ne voulait pas abandonner le bateau, voulait qu'on prenne en remorque. Et moi je lui ai dit, si je vous prends en remorque et puis que votre bateau coule puisqu'il y avait une voie d'eau, avec tout votre équipage, moi je ne pourrais pas récupérer tout le monde. Et vous allez perdre au moins la moitié de vos hommes. Donc on a réussi avec le Zodiac à quand même force 9 encore toujours. Ça se passe toujours dans des conditions de temps très dures. On a réussi à récupérer 49 donc d'équipage qu'on a ramené à bord. Et les pauvres Nigérians, en plein mois, il faisait 0 degré, et ils étaient habillés avec des t-shirts, avec des shorts. Ils étaient en tongs. Ils avaient des brassières câblées à l'envers ou pas câblées du tout. Et puis après, bon, on a réussi à transférer encore par Zodiac une pompe pour pouvoir étaler la voie d'eau. Et le commandant qui était resté à bord avec quelques officiers, ils étaient encore, je crois, qu'une douzaine à bord. Eh bien, mes deux hommes, moi, le second capitaine de l'Abeille et puis un mécanicien, ils n'ont pas eu un coup de main. On ne leur a pas donné un coup de main pour mettre la pompe en batterie, pour passer la remorque. Ils ont été obligés de faire ça à deux. De 3h du matin jusqu'à l'arrivée à 1h du matin le lendemain, on ne leur a rien offert, ni à manger, ni à boire de chaud. Et ça, ça marque, ça. Les années 50 jusqu'en peu près 70, sur un cargo français, si vous voulez, de 10 000 tonnes, on était une quarantaine de personnes. Bon. Après, on a supprimé à peu près la moitié du personnel. Donc on s'est retrouvé sur un bateau maintenant, un porte-conteneur ou un pétrolier, ils sont, je crois que c'est pas plus d'une vingtaine. Les marins à bord ne font plus que de la conduite. Ils ne font plus de maintenance, si vous voulez. Depuis les années 70, 80, il y a de plus en plus de pavillons de complaisance. Il y a une cinquantaine de pavillons de complaisance qui sont apparus dans les années 60 à peu près. bon, en majorité des Philippins, des Indiens, qui naviguent dans des conditions lamentables, il faut dire ce qui est. Ils font un an, deux ans à bord sans pouvoir débarquer. Ils sont mal nourris. La plupart du temps, ils sont sur des bateaux qui ont un certain âge et n'ont plus de confort. Ils sont, je dirais, mal payés, puisqu'ils sont payés à peu près quatre fois moins qu'un marin européen ou, quand ils sont payés, parce que des fois, ils restent à bord de leur bateau à quai pendant un an, deux ans, comme ça s'est vu dans des ports français. Pourquoi ? Parce que l'armateur les a laissés tomber. La moitié de la flotte mondiale est sous pavillon de complaisance. Une centaine de bateaux que j'ai ramenés à Brest. Bon, parmi eux, il y avait des bateaux qui étaient en très bon état et les trois quarts étaient des bateaux en mauvais état sous pavillon de complaisance. Et on s'en apercevait, nous, quand c'était un bateau sous pavillon de complaisance, parce que quand on allait sous l'étrave pour passer la remorque, la plupart du temps, les équipages étaient paniqués et ils ne savaient même pas comment prendre la remorque sur leur gaillard. Et puis, il m'est arrivé effectivement plusieurs fois de sauver des bateaux sous pavillon de complaisance, et notamment un bateau qui avait quitté Rotterdam pour Karachi. Il allait à la ferraille, donc c'était un bateau qui avait plus de 30 ans, 35 ans même, chargé de ferraille pour le rentabiliser, pour l'envoyer là-bas. Équipage, alors ils étaient une douzaine de nationalités différentes, hein. Il avait une avarie de moteur principal, il avait de l'eau dans la machine et il avait un ripage de cargaison, c'est-à-dire qu'il avait à peu près 15 degrés de chute. En plus de ça, son dernier moteur auxiliaire pour faire de l'électricité était tombé en panne parce qu'il n'avait plus de fuel, il n'avait plus de gasoil, il n'avait plus rien. Et ils allaient à Karachi, vous voyez, donc ils avaient à peine quitté la France que bon, ils étaient déjà en panne. Et quand on l'a accosté, moi je suis allé à bord pour faire signer les papiers. Il y avait des rats qui faisaient au moins un kilo qui se baladaient dans la cuisine. Le bateau était dans un état lamentable. Et comme ils sont maltraités à bord, mal payés, mal nourris, dès qu'il y a une avarie quelconque sur un bateau au pavillon de complaisance, ils ne restent pas à bord, ils demandent à être litreillés, ils abandonnent le bateau tout de suite. Hein. Et ils ont raison, parce que je ne vois pas pourquoi ils risqueraient leur vie pour un armateur qui les traite comme du bétail, pratiquement, ou des esclaves, tout au moins.
Rappelez-vous, le 16 mars 1978, la France se réveillait avec une nouvelle catastrophe maritime majeure qui allait polluer gravement la côte. Ce matin-là, sur France Inter.
Et pour commencer les titres de la matinée, nouvelle marée noire au large des côtes bretonnes. Un super tanker s'est échoué au nord-ouest de Brest, peut-être même la plus grande marée noire qu'on ait jamais connue sur les côtes françaises. C'est le quatrième tanker en 10 ans qui vient à s'échouer ainsi au large des côtes bretonnes. Leurs noms sont restés hélas célèbres, Torrey Canyon, Olympic Brewery et Boëlen. Celui-là s'appelle l'Amoco Cadiz. Il transporte 220 000 tonnes de pétrole et s'est échoué au large de Brest. En présent, la catastrophe sur place et elle risque d'être de taille en effet.
Non va hit que de tout l'herbe. Oya dindan armen pune. Aïs d'un fen ergois diste.
1978, l'Amoco Cadiz, l'État se rend compte qu'il n'y a aucune protection du littoral et demande à une société française de baser un remorqueur de haute mer à Brest. Et le remorqueur de haute mer, à l'époque, c'était l'Abeille de Normandie, qui était le plus gros. Il y avait deux, l'Abeille Normandie et l'Abeille Provence, qui étaient des sister ships aussi. Moi, je commandais l'Abeille Normandie, et on est arrivé, donc, deux jours après la Moco, on était basé à Brest. Et c'est au bout d'un an qu'on a eu l'Abeille Flandre et l'Abeille Languedoc. Alors, donc, on a commencé, si vous voulez, en 78. Après le remorquage en mer, on a commencé à faire du sauvetage.
En 1982, sur la pointe de la Bretagne, face à l'île de Ouessant, là où passe tout le trafic maritime transmanche en provenance ou à destination du nord de l'Europe, on a construit un centre opérationnel qui assiste et contrôle tous les bateaux de la zone. Cette sorte de tour de contrôle, qui se nomme le Cross-Corsen, suit la progression des navires au radar et les interroge par radio sur où est son trafic.
OCL Netherlands, son trafic. Good afternoon, sir. What is your last port of call on your destination, sir?
Good afternoon, sir. OOCL Netherlands, last port, Singapore, next port, Southampton. Over.
OCL Netherlands, ocean traffic. Do you have dangerous cargo on board, over?
Yes, we carry all classes of IMO dangerous cargo on board, 3.00 metric tons, over.
Ça, c'est des explosifs. Okay, thank you, sir.
Commentaire de l'officier de permanence du Cross-Corsen.
Grand total weight on board, 259.88.
Nous, notre rôle, c'est d'une part de regarder ce qui se passe et de faire respecter les règles, donc que ces navires ne viennent pas trop près de la côte. Deuxièmement, c'est lorsqu'il y a un problème, le constater immédiatement et appeler l'attention des gens qui ont la responsabilité de prévenir l'accident. En particulier, c'est le préfet maritime qui est à Brest, qui prend les mesures qu'il faut pour réagir contre ces problèmes, hein, s'il y a des avaries, qui va envoyer un gros remorqueur qui s'appelle l'Abeille Flandre, qui est basé à Brest, qui est toujours à un quart d'heure d'appareillage. Mais quand il fait mauvais, on l'envoie dans les endroits où ça peut être dangereux. En particulier, on le met souvent au pied de Ouessant, auprès de la tour du Stiff, notre tour radar. Et là, il peut intervenir très rapidement. Le centre fonctionne, pour ce qui concerne le contrôle, le suivi de la circulation maritime, H24, toute l'année. Hein, il y a des équipes qui se relayent en permanence.
Une zone dangereuse, pour quelle raison ?
C'est très dangereux parce qu'il y a de la terre qui arrive, il y a des îles, il y a l'île d'Ouessant, Molène, les îles de l'Iroise. Il y a de la grande houle qui vient du large, avec des vagues puissantes, des fortes tempêtes d'ouest, ouest-nord-ouest, donc qui mènent à la côte. De la terre qui remonte avec énormément de rochers, des courants très violents qui peuvent souvent aller contre le vent et les vagues et qui font déferler. Donc tout ça crée une zone très dangereuse et qui se trouve précisément à l'endroit où les bateaux arrivent quand ils rentrent en manche. Il faut savoir que dans cette zone-là, il y a tous les deux jours, en moyenne, une avarie. Alors pas tout dramatique, mais tous les deux jours, une avarie, ça veut dire que si on ne se donne pas les moyens d'intervenir rapidement, on risque statistiquement un gros accident un jour ou l'autre.
Pour faire face aux situations difficiles rencontrées par les navires, la marine dispose d'avions et d'hélicoptères, mais surtout d'un des plus gros remorqueurs du monde, l'Abeille Flandre. Quand le temps devient si mauvais que tous les bateaux rentrent pour s'abriter dans les ports, l'Abeille Flandre prend la mer pour être aux côtés de ceux qui vont devoir lutter contre les courants, la mer déchaînée et les récifs tranchants des hauts fonds. Le commandant actuel, qui a pris la suite de Jean Bulot et que tout le monde connaît sous le surnom de Carlos, s'apprête à appareiller et répond à notre consoeur Véronique Guémard.
Oui, bonjour, nous venons d'appareiller de Brest là, pour zone Ouessant. Je demande l'autorisation de prendre la passe nord.
Abeille-Flandre,
quand
pour la passe nord ?
Les Brest-Port d'Abeille-Flandre, bien reçu. Je reste en veille 16 et 8 hein, jusqu'à la bouchée en Martel.
Abeille-Flandre, Brest-Port, bien reçu.
Il y a combien de navires qui passent au large d'ici ?
57 000 bateaux par an, hein, ce qui fait 150 bateaux par jour. Et sur ces 150 bateaux, il faut savoir qu'il y a 700 000 tonnes de pétrole qui passent tous les jours ici au large.
Tous les jours ?
700 000 tonnes tous les jours et 90 000 tonnes de produits dangereux. Donc, bon, effectivement, il y a un risque permanent.
Le trafic est énorme et les risques de pollution accidentelle sont très importants, même s'il ne s'agit pas de bateaux poubelles. Autre histoire dramatique qui a marqué son temps, le Tanio. C'était en mars 1980, journal du matin sur France Inter.
Et puis, un mort, 7 disparus et 31 personnes sauvées dans le naufrage du pétrolier de ce matin, naufrage qui s'est produit tôt au large de Roscoff. La mer était très mauvaise, le pétrolier battant pavillon malgache n'est pas un super tanker, c'est vrai, mais tout de même, 26 000 tonnes de pétrole, c'est beaucoup. Thank you.
s'appelait le Tagno. C'était un pétrolier de 28 000 tonnes chargé de 27 000 tonnes de fioul lourd comme l'Erical Prestige. Mais c'était un bateau classique, c'était un ancien bateau français sous pavillon malgache. Il s'est cassé en deux dans le mauvais temps, il faut dire qu'il faisait très mauvais. Il y avait des creux de 12, 14 mètres, et il s'est cassé en deux au large de l'île de Bas. L'avant a coulé, c'était en pleine nuit malheureusement, l'avant a coulé et il y a eu 8 disparus. Et la partie l'avant a coulé comme l'Erika, comme le Prestige, c'était exactement la même configuration. Et l'arrière a continué à dériver avec le reste de l'équipage, ils étaient encore une trentaine derrière. De Malgache et quelques Français qui ont été récupérés par un hélicoptère et l'arrière donc continue à flotter avec 12 000 tonnes encore de fioul lourd à l'intérieur. Je commandais la baie de Languedoc cette fois-là. On était du côté de Cherbourg, on a fait route tout de suite, on est arrivé en pleine nuit. Et en pleine nuit, avec le temps qu'il faisait, donc on ne pouvait pas envoyer des hommes à bord parce qu'il n'y avait plus personne à bord. Hein, donc le bateau a été abandonné, donc il n'y avait plus personne, plus d'énergie, plus rien. Donc c'était trop dangereux de mettre le Zodiac à l'eau pour essayer de faire monter des hommes à bord en pleine nuit avec une furie de temps comme ça. Donc j'ai attendu le petit matin. Et au matin avant, j'avais demandé à la Marine nationale de m'envoyer un hélicoptère pour transférer des hommes de l'abeille sur l'épave. Et les heures passaient, 9h, 10h, je viens à venir. Et puis alors j'ai décidé à ce moment-là de mettre le Zodiac à l'eau et de faire monter deux de mes hommes à bord de l'épave. Mais il y avait quand même des creux de 6-7 mètres. Hein. Donc on a mis le Zodiac et le second capitaine et un matelot ont réussi à monter sur l'épave au moyen d'une échelle de corde qui pendait le long du bord à l'arrière, qui était pleine de fioul. Mais ils ont quand même réussi à monter. Et puis, ils ont mis de l'ordre un peu sur la plage arrière, parce qu'il y avait un tas de saloperies qui traînaient. Parce que le problème, c'était de pouvoir prendre ce bateau-là à la remorque, mais par l'arrière. Parce que le bateau étant cassé, la partie avant cassée était sous l'eau, donc on ne pouvait pas faire autrement. Je me suis présenté cul à cul, hein, et on a réussi donc à passer la remorque pour pouvoir lui faire faire demi-tour. Et une fois fait demi-tour, le nez dans le vent, l'épave était à 600 mètres des cailloux. Donc vous voyez, c'était quand même in extremis le sauvetage. Donc on a évité une marée noire là. Alors bon, on l'a écarté doucement des cailloux. Et puis alors l'équipe de la Marine nationale, elle, est repartie à terre avec l'hélicoptère, mais mes deux hommes, moi, sont restés à bord. Ils sont restés à bord sur une épave, on ne savait pas si elle allait couler ou si elle n'allait pas couler. Donc ils sont restés quand même pendant 5 jours à bord, sans chauffage, sans électricité, sans rien. Ils n'avaient rien à manger de chaud. Ils ont mangé pendant 3 jours des sardines à l'huile, des maquereaux vin blanc, et puis c'est tout ce qu'ils avaient. Donc ils étaient, alors je leur avais dit surtout vous ne descendez pas dans la machine parce qu'ils avaient été fermés les portes étanches, etc. Et vous ne descendez toujours qu'à deux, hein, en cas d'accident. Et en plus de ça, quand vous ne serez pas de quart, vous n'allez pas vous coucher dans une cabine sur l'arrière, hein, parce que si le bateau coule et chavire à ce moment-là, ben vous voyez, on ne pourra pas vous sauver. Donc ils avaient trouvé deux gros fauteuils et ils avaient installé ça juste à l'entrée de la coursive, sur le pont arrière, prêt à sauter sur l'arrière pour qu'on puisse les récupérer. Et pendant 4 jours, comme personne, alors là on parle des ports de refuge concernant le Prestige, mais cette fois-là, donc il y a 23 ans de ça, on est resté à faire des ronds dans l'eau pendant 3 jours pratiquement, entre l'Angleterre et la France, parce que personne ne voulait de l'épave du Tagno qui avait encore 12 000 tonnes dedans. C'était un week-end en plus, et il n'y a aucun politique pour prendre une décision. Et au bout de quand même de 4 jours, on nous a dit bon, de faire route sur la baie de Seine. Et encore, on ne savait pas trop où on allait. Moi, j'ai supposé qu'on allait à Antifer ou au Havre, et c'est qu'au bout de 4 jours qu'on a su qu'on allait au Havre. Mais on en est toujours au même point, là. Actuellement, on ne sait toujours pas qui d'abord va accepter un bateau comme un Prestige ou un Erika.
À la retraite depuis 1994, après une vie de marin bien remplie, Jean Bulot, qui a sauvé plus d'une centaine de navires en détresse ou en difficulté par gros temps, reste un homme actif qui continue de s'indigner sur la faiblesse des moyens mis à la mer pour la sécurité.
Il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce système de protection comme la France. Parce qu'il faut dire, c'est vrai que le système de protection actuellement des deux remorqueurs coûte cher aux contribuables. Mais il faut voir aussi toutes les catastrophes écologiques qu'on a évitées en évitant toutes ces marées noires. Ce ne sont pas les Français qui ont innové ce système, ce sont les Africains du Sud, en Afrique du Sud, qui ont construit deux gros remorqueurs pour justement assister les pétroliers à l'époque où les pétroliers étaient obligés de faire le tour par le Cap. Et la France a pris la suite après la Moco Cadiz. Et depuis une dizaine d'années, les Espagnols ont quelques petits remorqueurs basés donc sur la côte atlantique et sur la côte méditerranéenne. Deux d'entre eux sont intervenus d'ailleurs sur le Prestige. Les Anglais ont également deux remorqueurs sur la côte. Et les Allemands en ont un, et les Hollandais également. Mais ailleurs, moi j'en connais pas, hein. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de remorqueurs de haute mer basés à des points stratégiques de la planète, comme il y avait avant, parce que c'est pas rentable.
Fin de ce Fréquence Terre consacré à Jean Bulot à l'occasion de la sortie de Colère Noire aux éditions Alizé et Blanc Silex, un sujet proposé sur des entretiens recueillis par Véronique Guémard avec des documents de France Inter provenant des archives de l'INA, sur une réalisation de Guillaume de Rachinois, un mixage de Bastide Roucoul et une présentation d'Arnaud Jouve. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage réalisé en janvier 2002. Aujourd'hui, le sauvetage en mer reste une préoccupation forte. Depuis 20 ans, les choses ont évolué. Certains navires sont devenus gigantesques. Certains font plus de 400 mètres de long parfois. Et le trafic maritime s'est intensifié. La mission principale du sauvetage en mer, c'est d'empêcher aujourd'hui qu'un très gros navire devienne incontrôlable près des côtes. Et la prévention des accidents reste une priorité du secours en mer. Mais depuis 20 ans, une nouvelle mission s'est beaucoup développée. C'est celle du secours à des milliers de migrants qui traversent les mers pour rejoindre une terre d'asile. C'est là une nouvelle préoccupation et une nouvelle mission pour ceux qui, comme Jean Bulot l'a fait dans son temps, parcourent l'océan pour sauver des vies. Allez, un peu de légèreté pour finir avec la chanson du jour. La mer peut aussi être un extraordinaire terrain de jeu. Beaucoup ont été attirés par l'aventure d'un voyage en bateau. Une envie de partir dès que le vent soufflera. C'était le rêve de Renaud. À la semaine prochaine.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Et Cavardi, Poigeot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Prends la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en